Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la session, les organisateurs des journées de m'avoir invité pour parler de méthodes numériques pour la simulation de systèmes multicores en présence de contacts, de frottements et d'impacts. Donc je vais, on va dire, attaquer directement avec quelques exemples pour motiver un petit peu mon exposé. Alors le premier exemple, il s'agit d'un disjoncteur de chez Schneider Electric. Donc c'est un mécanisme très simple où il y a une dizaine de pièces. Et ce genre de disjoncteur, bon, il est présent dans tous les tableaux électriques de la plupart des maisons et des appartements aux normes, on va dire. Et puis ce disjoncteur, il est caractérisé, donc je disais, par une dizaine de pièces. Et ce qui fait son intérêt d'un point de vue de la simulation, c'est qu'il y a une quinzaine de contacts frottants à l'intérieur de ce système qui doit déclencher en quelques millisecondes. Et pendant son déclenchement, on peut avoir jusqu'à 200 événements. Ce que j'appelle les événements, c'est des impacts, des changements de vitesse de glissement, des pertes de contact. Et tous ces événements sont très très importants pour son fonctionnement et son temps de déclenchement, qui est un paramètre crucial. Donc pour pouvoir faire du prototypage de ce type de, on va dire, de mécanisme, on a besoin d'avoir de la simulation qui est fiable sur les aspects frottement sec, sur les aspects impact et sur les aspects contact unilatéral. Donc je vais prendre un autre exemple qui vous est peut-être plus connu, c'est le robot Bip. Donc on a un modèle à l'INRIA Rhône-Alpes qui lui aussi, par l'interaction de ses pieds avec le sol, nécessite une modélisation et une simulation correcte du contact et du frottement ainsi que des impacts. Un dernier exemple de ce type de système, c'est un empilement de billes qui sont en interaction les unes avec les autres, avec du contact et du frottement. Donc là on voit, je crois qu'il doit y avoir une cinquantaine de billes. Et puis ici, ce qui est dessiné en noir, c'est des chaînes d'effort. Donc si ça fonctionne, je peux vous montrer. Donc voilà ce qui se passe dans une simulation, par exemple interactive. On vient prendre une bille, on la tire, et on regarde comment se diffusent les chaînes d'effort, de contact et de frottement dans un empilement de billes. Donc là encore, la dynamique de chacun des systèmes est très simple. Par contre, la dynamique globale du système est un petit peu plus compliquée du fait de ces relations de contact unilatéral et de frottement. Je vous rejoue une autre fois. Donc la bille en gris en fait est tirée vers le haut. Donc voilà un panorama, on va dire, de système mécanique multicore avec du contact, du frottement et des impacts. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a des applications en éléments finis, il y a des applications encore flexibles. Alors, ça c'est un petit peu pour motiver le type de système qui m'intéresse. Donc des robots, des systèmes de mécanismes de solides rigides, des collections de corps. Et le plan de mon exposé est le suivant. Je vais d'abord vous parler un petit peu de formulation de dynamique régulière, donc chose très simple sur la formulation de la dynamique. Des équations différentielles algébriques, puisqu'en fait tous ces systèmes se mettent sous forme d'équations différentielles algébriques, de leur index, de leur intégration numérique en temps, donc comment on intègre, quelles sont les méthodes pour intégrer correctement ces systèmes. Et après, je vais passer à une deuxième partie sur ce que j'appelle la dynamique non régulière. Quand il y a du contact, du frottement et des impacts, on obtient une dynamique qui n'est plus régulière en temps. Les méthodes d'intégration spécifiques et un dernier exemple dans une plateforme logicielle qu'on développe à Grenoble. Alors pour la formulation, on va dire, des équations du mouvement, c'est relativement classique, hein. On choisit un jeu de coordonnées Q, un ensemble de vitesses V, on a une première relation qui relie les dérivés en temps des paramètres par rapport aux vitesses, grâce à un opérateur T qui peut être un opérateur de paramétrage, par exemple des rotations. On a ensuite une équation de la dynamique du second ordre, donc avec un opérateur de masse, des efforts extérieurs, et des efforts intérieurs imposés au système, et puis une dynamique qui va définir la commande U. Ici, par rapport aux paramètres et aux vitesses. Alors ça, c'est le cadre classique, on va dire, des équations du mouvement. On obtient des équations différentielles ordinaires. Ça, on sait bien les simuler depuis déjà assez longtemps, avec des ordres et des précisions. On va dire, on peut atteindre des précisions machines, même pour des grands systèmes, relativement facilement. Alors si on ajoute des liaisons holonomes, donc c'est le cas quand on veut faire, on va dire, des mécanismes, hein, dans des systèmes multicores, qu'est-ce qui se passe? Bon, les liaisons holonomes, je les ai décrites de manière la plus simple possible, hein, des fonctions G, du temps et des paramètres égales à 0. On va supposer que ces fonctions sont régulières, c'est une hypothèse relativement classique. que la matrice jacobienne est de Ramplin. Ça, c'est pour éviter des problèmes de définition multiple d'efforts de contact. Et puis, on introduit des multiplicateurs de Lagrange dans la version précédente de la dynamique, qui sont ici, ces fameux lambda, hein, par l'intermédiaire d'un opérateur qui prend en compte la transposée de la jacobienne et puis la transposée de cet opérateur de paramétrage. Et puis, on obtient un système où on a une partie de la dynamique, des relations d'égalité qui sont des relations algébriques, hein, où il n'y a pas d'éléments différentiels, et puis ces multiplicateurs. Et ce qu'on obtient, ce sont des équations différentielles algébriques. Donc là, on change un petit peu de monde, on n'est plus dans les équations différentielles ordinaires, parce qu'on doit à la fois résoudre un système différentiel et respecter des contraintes d'égalité. Et ce type de système est beaucoup, beaucoup plus difficile à résoudre, aussi en termes de propriétés mathématiques, que ce soit existence, unicité, genre de choses comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, voire plus compliqué. Et on a des problèmes sur, par exemple, de cohérence des conditions initiales pour avoir l'existence de solutions, ce genre de choses comme ça. Des problèmes dont je vais parler un peu plus tard sur l'intégration numérique en temps. Donc, je donne, avant de passer aux méthodes d'intégration des équations différentielles algébriques, je donne juste deux reformulations des liaisons, on va dire, holonomes. Une première qui est une reformulation en vitesse. Je dérive en fait simplement, je fais une dérivée totale par rapport au temps, une liaison égale à 0. Et puis une reformulation en accélération. Je dérive en fait deux fois par rapport au temps hein, ces liaisons. Donc je vous passe sur les détails calculatoires qui sont pas très importants. Tout ça pour vous dire que je peux à tout moment dans des liaisons type holonome, donc g égale à 0, choisir de considérer si ma liaison est valide à l'instant initial, choisir de considérer plutôt une liaison en termes de vitesse. Je peux faire ça à tout moment, et si à l'instant t égale 0, g est 0, si g point est tout le temps égal à 0, alors nécessairement, hein, ma liaison holonome sera toujours vérifiée. De la même manière en accélération. Donc dans le continu, on verra qu'on peut utiliser d'autres formulations des liaisons en vitesse ou en accélération pour pouvoir faire la résolution. Alors, je vais continuer. Donc là, j'ai déjà enlevé la commande pour faire plus simple. Je vais continuer sur la formulation générale de mon système mécanique sous forme d'équations différentielles algébriques pour vous parler un petit peu des propriétés un peu générales sur ces équations différentielles algébriques. Donc, bon, il y a des ouvrages classiques hein, de Brennan, Escher, Herrer, Wanner, etc. sur les équations différentielles algébriques. Et il y a une notion qui est fondamentale dans tous ces travaux, c'est la notion d'index. Donc, je ne sais pas si c'est une notion qui est familière pour vous. La notion d'index, j'ai choisi une notion, la notion d'index différentiel, et je donne une définition, on va dire, grossière, qui est en gros le nombre de fois où je dois dériver ces équations pour réobtenir un système d'équations différentielles ordinaires. En Q, donc en paramètres, en vitesse et en lambda. En gros, pour ceux qui connaissent la notion de degré relatif en automatique, hein, c'est une relation qui est très très proche de la relation d'index, c'est quasiment la même chose. Désolé. Ça va revenir. C'est une relation qui est très très proche, qui dit en gros comment le multiplicateur est relié aux paramètres et aux vitesses, et surtout comment il est relié à ses dérivés et à quel niveau de dérivée. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Bon, évidemment, si j'ai un index 0, c'est-à-dire si je n'ai pas besoin de dérivée, j'ai directement des équations différentielles ordinaires, donc je suppose que je n'ai pas de liaison en fait. Et plus l'index est élevé, plus la simulation numérique est difficile. Donc on a des problèmes de consistance aux conditions initiales, qui sont vraiment un problème très difficile à résoudre quand on ne connaît pas exactement les conditions initiales. On peut avoir des grosses sensibilités aux conditions initiales. Et puis, on a des gros problèmes d'ordre et de précision des intégrateurs, plus l'index est élevé. Alors nous, malheureusement, dans les systèmes mécaniques, si je suppose que cette matrice-là, donc une matrice de Delassus, hein, où il y a l'opérateur d'inertie, il y a les gradients des contraintes, si je suppose que cette matrice-là est inversible, on va dire que c'est le cas standard d'un système mécanique, alors l'index, c'est 3. Il faut que je dérive 3 fois pour obtenir un système d'équations différentielles ordinaires. Et un index 3, dans la théorie des équations différentielles algébriques, c'est un index qui est déjà élevé, qui est déjà difficile à simuler. Donc les systèmes mécaniques, par défaut, avec des contraintes en position, ils sont difficiles à simuler. Et ils posent pas mal de problèmes aux algorithmes standards. Alors on peut essayer de reformuler en vitesse, hein, l'idée c'est que je dérive une fois ma contrainte, comme je vous ai montré tout à l'heure, et là évidemment, j'ai plus qu'à dériver deux fois pour réobtenir un système d'équations différentielles algébriques. Donc j'ai réduit l'index. Puis je peux continuer à faire ça, je redérive encore une fois, hein, Et puis là, j'obtiens un système d'index 1, j'ai une formulation d'accélération, donc j'ai g secondes ici. C'est un petit peu pénible. Désolé. Et en fait, dans ce système-là, on voit dans un système d'index 1, hein, si cette matrice est inversible, en fait, je peux résoudre directement lambda en fonction de Q point et de V point. Donc en fait, je peux me ramener assez facilement à un système d'ODE et je peux me ramener assez facilement à une résolution de ce système. Alors, maintenant, si je parle d'intégration numérique, bon, les principes généraux de l'intégration numérique, hein, c'est des extensions, on va dire, non triviales des méthodes standards d'intégration. Donc, méthode de type Runge-Kutta, méthode d'extrapolation, méthode multipas. Mais on va dire que les extensions sont réellement non standards parce qu'en fait, l'application d'une méthode de Runge-Kutta ou d'une méthode multipas directe sur un système d'équations différentielles algébriques, on va dire que la probabilité pour que ça fonctionne est relativement faible. Ou dans un autre sens, en général, ça ne marche pas. Alors, il y a quand même des choses qui ont été faites, hein, autour des méthodes à un pas, donc des méthodes déjà en général implicites de Runge-Kutta ou des méthodes d'extrapolation. Les méthodes multipas qui fonctionnent bien, c'est plutôt les méthodes dites BDF, donc Backward Differentiation Formula. On va voir le problème de stabilisation et d'élimination des contraintes et les améliorations pour la mécanique des systèmes multicore flexibles. Donc, bon, là j'essaie de vous résumer, on va dire, 15 ans de littérature sur ce type d'équation différentielle algébrique. Il y a eu beaucoup de travaux, donc c'est assez dense. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on est en index 1, donc on prend les contraintes en accélération, en gros tout va bien. On peut faire des méthodes implicites de Runge-Kutta, ça fonctionne bien. On a une légère réduction d'ordre, donc l'ordre de la méthode, hein, on suppose que c'est l'erreur locale qui fonctionne comme une puissance, hein, du pas de temps. Donc l'ordre de la méthode, en gros, est conservé pour Q, pour les positions et les vitesses, et puis on a une réduction d'ordre sur les multiplicateurs. Donc il faut s'attendre à ce que les multiplicateurs soient un peu moins bien évalués. Si je prends des index 2, alors là on a carrément des réductions d'ordre sur les variables différentielles, c'est-à-dire qu'on croit utiliser une méthode de Runge-Kutta d'ordre 3 par exemple, et puis on obtient une méthode de Runge-Kutta d'ordre 1. Donc ça c'est un petit peu ennuyeux au niveau de la précision, et surtout si on veut faire de la prédiction des pas de temps, si on veut regarder ce qui se passe au niveau des pas de temps adaptatifs, on a de gros problèmes. Bon, et puis on a une réduction aussi, toujours pour le multiplicateur. Alors par contre, il y a eu des méthodes qui ont été développées, qui s'appellent Stiffly Accurate, qui permettent de conserver l'ordre sur les variables différentielles, au prix quand même de développement assez compliqué. Et pour les méthodes génériques, il y a des gens qui ont travaillé, hein, Asher, Petzold, Murua, sur des méthodes projetées ou partitionnées ou spécialisées qui permettent de conserver l'ordre dans tous les cas pour les méthodes génériques implicites de Runge-Kutta. Et déjà, on va dire que là, au niveau complexité de calcul, on est très loin des méthodes de Runge-Kutta explicites standard. Ça devient déjà assez lourd et assez difficile. Et puis si on est en index 3, c'est-à-dire le vrai problème qu'on veut traiter, eh bien, en général, on a de la réduction d'ordre. Donc on peut employer des méthodes d'ordre relativement élevées. On obtient en général de grosses erreurs. On n'arrive pas à régler les problèmes de tolérance. Et puis on a de la propagation des erreurs qui sont dues aux multiplicateurs. Donc il y a des grosses, on va dire les multiplicateurs, je vais en parler juste après. Il y a des grosses erreurs sur les multiplicateurs qui se propagent. Et en général, on arrive à faire exploser les calculs. C'est-à-dire on a beau descendre les pas de temps, plus on fait descendre les pas de temps vers zéro, plus on a de propagation des multiplicateurs et on n'arrive pas à intégrer correctement. Bon, il y a quand même des codes, hein, qui existent. Hein, donc l'un des plus connus, hein, c'est RADAO et puis M5, donc, qui sont des codes développés à Genève. Donc, M5 est spécialement dédié au système mécanique, où on peut rentrer aussi des commandes et on peut avoir une gestion événementielle aussi des commandes. Et puis il y a un code d'extrapolation qui est MEX, développé par Christian Lubitsch. Donc ça, c'est des codes qui sont aujourd'hui bien, on va dire, bien utilisés, mais il faut savoir que si on traite le problème d'index 3 directement, on risque d'avoir des gros soucis. Alors les méthodes multipas, en gros, on a la même chose. Hein. Dans les index 1, donc, c'est les méthodes introduites par Geer, dont la méthode de Geer qui est la plus connue en 1971. Donc, on a des convergences à l'ordre élevé, on a des convergences jusqu'à l'ordre 6 pour les index 2. Pour les index 3, on a des convergences jusqu'à l'ordre 6 pour un pas de temps fixe. Si on fait du pas de temps variable, on perd la convergence. Ça, c'est un peu ennuyeux. On ne peut pas faire de pas de temps adaptatif. Et la remarque qu'il faut voir, c'est que on a des convergences théoriques. Donc on a la même chose pour les schémas implicites. Et puis en pratique, on constate des réductions d'ordre. C'est-à-dire que la convergence théorique suppose que les calculs numériques faits sur l'ordinateur sont parfaits. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Et comme on a des propagations d'erreurs, les propagations d'erreurs numériques sont instables. et en fait on constate qu'on a des réductions d'ordre. Donc il y a des techniques pour éviter ce genre de choses, je ne rentre pas dans les détails. Et le code le plus connu, hein, c'est Dassel, qui est le code le plus connu pour résoudre des équations différentielles algébriques par des méthodes, excusez-moi, par des méthodes multipas. Alors, la résolution du cas d'index 3, donc celui qui nous intéresse pour la mécanique, en gros, hein, on a des erreurs dans les multiplicateurs en vitesse, accélération et position, qui sont respectivement, position, vitesse, accélération, pardon, en h, c'est le pas de temps, h-1, h-2, h-3, donc 1 sur h cube, c'est-à-dire que plus le pas de temps est faible, plus l'erreur est forte. Donc là, ça veut dire, vous avez il faut trouver des stratégies pour employer des pas de temps suffisamment gros pour avoir pas des erreurs trop fortes sur vos variables différentielles, donc suffisamment petit pour avoir des erreurs correctes sur vos variables différentielles, mais pas trop petit pour pas avoir trop de propagation d'erreurs. Donc c'est souvent un casse-tête. Aujourd'hui, il n'y a rien d'automatique pour régler ce genre de problème. On est obligé de résoudre les contraintes de manière extrêmement précise, hein, sinon on a des propagations d'erreurs, donc ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on a des systèmes implicites, à chaque pas de temps, il faut faire des résolutions avec des méthodes de Newton, hein, par exemple, et puis il faut aller faire descendre les méthodes de Newton à des précisions de type 10-14, 10-16, donc on va aller dans la précision machine en double pour pouvoir avancer en temps correctement. C'est pénible. Bon, il y a des techniques type changement d'échelle, hein, qui ont permis de résoudre un peu ce genre de problème. Alors, la réduction d'ordre, on voit que si on réduit l'index, on a des systèmes plus faciles à intégrer. Si je prends les index en accélération ou en vitesse, c'est plus facile à intégrer qu'en index 3, c'est-à-dire en position. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on a des dérives dans les contraintes en position et en vitesse. En continu, en temps continu, on va dire, c'est des systèmes équivalents. Par contre, en temps discret, ce n'est pas des systèmes équivalents. Donc, si je résous en temps discret ma contrainte en accélération, il n'y a aucune raison que ma contrainte en vitesse soit valide, et encore moins ma contrainte en position. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait un mécanisme? On a une liaison pivot, on intègre en temps, et puis au bout de quelques pas de temps, en fait, la liaison pivot, elle est plus vraie. Hein. On a les deux objets qui se séparent, donc on est obligé de ce qu'on appelle de réassembler ou de reprojeter sur les contraintes, hein, le mécanisme, donc ça coûte assez cher. Donc, quand on réduit l'index, on arrive bien à intégrer, mais par contre, on n'intègre pas le bon système. Bon, alors, si on choisit un système d'index 3, on intègre le bon système, mais on n'arrive pas à l'intégrer numériquement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le casse-tête pour intégrer correctement ces choses. Bon, il y a quelques remèdes, hein, des méthodes de stabilisation. Hein, donc la plus connue, peut-être que vous la connaissez, c'est Baumgart. Hein, on met un PID pour se ramener sur la contrainte. Donc il n'y a aucune contrainte qui est satisfaite exactement, mais on essaie de rester de la manière la plus proche possible de la contrainte. De la pénalisation et puis des méthodes par projection, hein, d'élimination de contraintes. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez technique. Et là, je vais vous parler d'une dernière chose, c'est quand on fait des systèmes multicores, tout ce que je vous ai présenté avant, en général, ne fonctionne pas. Parce que des méthodes implicites de Runge-Kutta ou des méthodes multipas, lorsqu'on a plus de 1000 degrés de liberté, hein, c'est extrêmement coûteux. Alors, en dynamique des structures flexibles, ce qui est utilisé, hein, donc je parle en éléments finis, c'est des méthodes Newmark ou des méthodes de type HHT, hein, qui sont des méthodes d'ordre faible, donc d'ordre 2, mais qui nécessitent très peu, on va dire, de calculs intermédiaires à chaque pas de temps, et très peu de stockage. Et ces méthodes ont été étendues aussi pour les systèmes multicores, et aujourd'hui c'est une voie, on va dire, c'est des travaux récents, hein, c'est une voie qui est vraiment explorée. L'idée c'est de dire, arrêtons de faire des méthodes d'ordre élevé, faisons des méthodes d'ordre faible, faisons plus de pas de temps, mais qui coûtent moins cher, et comme ça on aura moins de propagation d'erreurs, et on va mieux maîtriser les calculs. Et donc, on va dire, les répercussions de ce travail, on va dire, en dynamique des structures, pardon, flexible, c'est-à-dire méthode d'éléments finis, hein, sur le retour pour le solide rigide, aujourd'hui est en train d'apparaître progressivement, et il semblerait que ça soit un bon compromis en termes de calcul. Bon, j'en ai fini pour la partie régulière, maintenant je vais passer à quelque chose sur lequel je suis un peu plus spécialiste, c'est les aspects, on va dire, contrainte unilatérale, contact unilatéral si vous préférez, frottement. Alors qu'est-ce que j'ai ajouté dans ma description par rapport à tout à l'heure? J'ai toujours mes équations différentielles, standard, de ma dynamique, ma commande. Ici, j'ai toujours des liaisons bilatérales, des liaisons standards dans le mécanisme. Donc E, en fait, c'est l'ensemble des liaisons, c'est l'ensemble des indices pour lesquels les liaisons sont des égalités. Et puis, j'ai des inégalités ici qui apparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que il y a une fonction des positions, hein, qui doit rester positive. Donc, je prends l'exemple, hein, d'une bille qui rebondit sur un plan. Hein, je veux que la position, par exemple, de cette bille reste positive. Je veux que la bille reste au-dessus du plan. Le multiplicateur doit lui aussi être positif, et le produit des deux doit être nul. Donc ça, c'est un type de modélisation de contraintes unilatérales. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force qui est exercée par le sol sur ma bille est positive. Je ne peux pas tirer sur ma bille. Je peux uniquement la pousser vers le haut, si ça touche. Et puis le produit des deux est nul. Ça veut dire que quand j'ai pas contact, pardon, quand G est strictement positif, lambda est nécessairement nul. Et si lambda est non nul, ça veut dire que je suis en contact, que G est nul. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une condition de Signorini, condition de complémentarité. Donc j'ai réécrit cette condition de complémentarité, qu'on écrit sous cette forme, hein, suivante en général, c'est la même chose, hein, G positif, lambda positif, le produit des deux, on va dire, égal à 0. Et puis qu'on écrit aussi sous cette forme-là, donc il y a une forme mathématique un peu plus, on va dire, barbare, hein, c'est une forme d'inclusion, donc lambda appartient à un cône normal, AR+, donc l'ensemble des réels positifs, pris en G. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est juste que bon, la notion de cône normal, on va dire, en optimisation est très classique, hein, l'optimisation convexe, c'est quelque chose de très classique. Cette formulation-là, elle est très intéressante parce qu'elle va nous faire apparaître un autre type de système qui est une inclusion différentielle. C'est-à-dire que j'ai simplement dit changer lambda appartient à un cône normal, je l'ai remis dans ma dynamique et j'obtiens ce type d'inclusion différentielle. Donc là, j'ai les équations de Lagrange du mouvement écrites en inclusion différentielle. Phi, c'est mon ensemble admissible, hein, c'est l'ensemble qui est défini par toutes les contraintes bilatérale égale à 0, toutes les contraintes unilatérales positives, et puis j'ai des forces généralisées qui s'écrivent comme ça, comme une inclusion dans un cône normal. Alors, le cône normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, si je suis dans l'intérieur de mon ensemble admissible, il vaut 0. Bon, les multiplicateurs sont nuls. Et puis, bon, ici, la notion d'intérieur pour des égalités, on va dire, j'oublie les égalités, hein, j'ai que des inégalités. Il vaut 0 si je suis à l'intérieur, puis si je suis sur le bord, il vaut quelque chose, et ce quelque chose, c'est R+. C'est-à-dire, c'est une valeur positive. Alors, s'il n'y avait que ça, ça pourrait aller. Alors, le problème, c'est qu'en général, la dynamique avec du contact, hein, si je fais rebondir une bille sur un plancher rigide, je m'attends à avoir des impacts, c'est-à-dire des sauts de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais arriver en contact avec une vitesse qui va vouloir faire rentrer la bille dans le sol, il va falloir que je change de vitesse instantanément pour rebondir dans un modèle rigide. Et donc on a des impacts, et donc il nous faut un nouveau cadre mathématique. Les vitesses, ça ne peut plus être des fonctions, on va dire, continuellement différentiables, mais c'est des fonctions à variation bornée, hein, qui peuvent avoir des sauts, dont la somme des sauts est bornée. L'accélération, c'est une mesure différentielle, donc, ou une mesure de style geste, donc c'est une mesure que je définis par rapport à ma vitesse V, hein, qui va prendre en compte, je vais expliquer un peu ce que c'est plus tard, qui va prendre en compte les sauts, si vous voulez, hein, cette mesure différentielle, c'est une mesure classique, on va dire, de Lebesgue, auquel j'ajoute des Dirac, hein, quand il y a des impacts. Hein. Et puis les multiplicateurs, c'est la même manière, c'est des mesures d'impulsion, parce que j'ai des forces et j'ai aussi des percussions. Bon. J'aurais dû me brancher. La contrainte unilatérale, elle va s'écrire comme une inclusion, mais cette fois-ci sur les impulsions, hein, c'est les impulsions qui vont passer. Hein. Et puis je suis obligé d'ajouter une loi d'impact. Ici, j'ai pris une loi de Newton pour faire le plus simple possible. En gros, hein, la vitesse après l'impact, c'est proportionnel à la vitesse avant l'impact. Je change le signe et je mets un petit coefficient de restitution pour pouvoir faire des rebonds élastiques, plastiques ou complètement inélastiques. Alors, si je fais ça, eh ben, il faut que je change encore de cadre. Je reprends mon inclusion de tout à l'heure et je passe dans ce que j'appelle un processus de Ralph, hein, qui est dû à Moreau. Où là, ça c'est une mesure, donc la masse fois la mesure différentielle qui joue le rôle de l'accélération, les efforts que j'intègre par rapport à la mesure de Lebesgue, quelque chose de standard, le tout inclus dans un cône normal à un cône tangent. Je ne rentre pas dans les détails ici, c'est simplement parce que je suis passé à une formulation en vitesse, donc j'ai un normal, un tangent, un ensemble admissible, peu importe. J'obtiens une inclusion différentielle à mesure. Donc en termes de complémentarité, je peux réécrire cette chose un peu curieuse, en complémentarité, hein, j'obtiens ça, la même égalité de mesure, là j'ai la mesure impulsion, je définis une vitesse locale, et puis j'ai ce type de complémentarité sur les vitesses, si le contact est actif, hein, si je suis sur le contact, alors je vais imposer ce type de complémentarité sur mes vitesses, qui veut dire, en gros, la loi d'impact perpendiculaire à la mesure impulsion. Bon, pour pouvoir se raccrocher un petit peu mes wagons à des équations de mécanique qui sont un peu plus connues, je peux décomposer ces mesures différentielles. Donc là, je fais une décomposition où j'oublie les mesures continues singulières. Donc toutes les fonctions type Cantor et genre de choses comme ça, je les oublie, elles ne m'intéressent pas en mécanique. Et puis je dis, en gros, hein, je truande sur le théorème de Lebesgue, et puis je dis, je peux décomposer de cette manière-là ma mesure dv, c'est gamma fois dt, gamma c'est l'accélération standard, hein, ma dérivée seconde de ma position, ma dérivée simple de la vitesse, et puis des sauts de vitesse fois dnu, et dnu, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de mesures de Dirac. En gros, hein, à chaque fois que je vais avoir une impulsion, à chaque fois que v plus et v moins vont être différents, c'est-à-dire la vitesse avant et la vitesse avant et la vitesse après vont être différentes, je vais avoir un Dirac. Je fais pareil pour mes... excusez-moi, là, le dr, c'est pas un dr, c'est un di. Hein, pour moi. Je fais exactement pareil. Lambda, c'est les efforts standards que j'intègre par rapport à la mesure de Lebesgue, et puis ça, c'est les percussions. Et si je fais cette décomposition, et puis que je la réintroduis dans ma dynamique précédente, eh ben, j'obtiens deux choses relativement classiques. Ben, aux instants d'impact, j'obtiens des équations d'impact. Donc m fois le saut de vitesse égale aux percussions, et puis des équations du mouvement régulier, qu'on préfère, m fois l'accélération plus les forces, qui est égale au multiplicateur, et puis des choses plus classiques aussi hein, sur la complémentarité. Donc là, j'ai deux types de dynamique. Aux instants d'impact, j'ai des équations de percussion, et dans l'évolution régulière, j'ai une dynamique régulière standard. Donc ça, c'est ce qui vient... Tout ça est contenu, en fait, hein, dans l'inclusion différentielle à mesure que je vous ai montré avant. Alors si je veux faire des lois de force plus complexes pour finir avec un peu de modélisation, bon, tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'est des jolis multiplicateurs de Lagrange, c'est des équations de Lagrange, etc. Bon, le formalisme de Lagrange, on va dire, c'est je vais être méchant, c'est un formalisme peu mécanique. Alors c'est un petit peu méchant, tout au moins pour les multiplicateurs, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que les multiplicateurs sont définis de manière relativement abstraite, ils n'ont pas forcément de relation avec les efforts réels aux liaisons, et donc quand on veut faire du frottement, quand on veut faire des lois de cohésion, quand on veut faire des choses comme ça, on n'y arrive pas en mécanique de Lagrange directement, et on est obligé de faire de la physique réellement au point de contact. Donc, faire de la physique, c'est d'abord se donner un repère. Les efforts de contact, je les mets par rapport à N, c'est une normale, une partie tangentielle. Puis je relie en fait hein, mes paramètres standards aux vitesses locales, et puis, les efforts aux efforts locaux dans ce système, pour pouvoir écrire des lois comme le frottement de Coulomb par exemple. Alors si je fais pas ça, hein, si je travaille pas avec les fameux R, excusez-moi, mais si je travaille directement avec les lambda en mécanique de Lagrange, bon, ça pose pas mal de problèmes, parce que le lambda il a pas une valeur physique. Bon, tout simplement, hein, si vous prenez une contrainte holonome G égale 0, alpha G égale aussi est égal à 0, par contre le multiplicateur lui va être défini par rapport à ce alpha, et puis vous pouvez lui donner n'importe quelle valeur possible, donc ça fonctionne pas. Alors là, donc, en prenant un repère local au contact, je peux définir des grandeurs qui sont physiques. Et le frottement de Coulomb, bah, il dit quoi? Ça, je pense que c'est des choses relativement classiques. Hein. Je me donne un cône, hein, le cône de Coulomb, et toutes les réactions. Donc, ce cône, il est défini comme la valeur de la norme tangentielle est inférieure ou égale à mu fois la valeur de l'effort normal. Mu, c'est le coefficient de frottement. Et puis, bah, si la vitesse de glissement est nulle, la vitesse tangentielle est nulle, et ben je suis dans le cône, et puis si elle n'est pas nulle, je dois être sur le bord du cône, et puis je dois être opposé, la réaction doit être opposée à la vitesse. C'est juste ça que ça veut dire. En complémentarité, ben on peut réécrire cette chose en complémentarité, et si on est capable de l'écrire en complémentarité sur des cônes, ça c'est ce qu'on appelle le cône dual, on est aussi capable de l'écrire sous forme d'inclusion. Tout ça pour vous dire, en gros, que si je suis capable de l'écrire en forme d'inclusion, eh bien, je peux la réécrire en inclusion différentielle à mesure, etc. Donc ça, c'est l'exemple du frottement de Coulomb. Il est un peu caractéristique de toutes les lois, on va dire, un peu améliorées pour faire des lois de contact non régulières un peu compliquées, où on peut prendre de la cohésion, en compte de la cohésion, de l'amortissement, des raideurs, on va dire, de régularisation, etc. etc. Tout ça rentre un petit peu là-dedans. Donc je vais passer à mon avant-dernière partie, on va dire, sur... Comment on intègre ces inclusions différentielles à mesure? Comment on intègre ces systèmes qui ne sont pas réguliers? Donc, j'ai dit qu'on avait déjà des problèmes avec les DAE, donc là on en a d'autres. Il y a deux grandes classes d'intégrateurs, j'ai envie de dire. Donc, la première, c'est ce que j'appelle des schémas à détection d'événements. Donc, c'est ce qui paraît le plus standard et le plus classique. En gros, entre deux impacts, j'ai un système qui est régulier. Ouais. Entre deux impacts, j'ai un système qui est régulier. Donc je l'intègre avec les intégrateurs standards des équations différentielles algébriques, et puis je détecte l'instant d'impact, je résous mes équations d'impact. Ça, c'est l'approche, on va dire, naïve, qui fonctionne bien sur les petits systèmes. Et puis il y a l'autre système qui est de dire, je prends l'inclusion différentielle à mesure, je l'intègre directement, et je ne m'arrête jamais sur les impacts. Je vais tout droit. Alors, donner les avantages et les inconvénients. Schéma de détection d'événements, en gros, on a des ordres de précision élevés sur les phases régulières, à condition de faire de la réduction d'index. Par contre, on n'a pas de preuve de convergence, on a énormément de sensibilité au seuil numérique. Donc, pour détecter les impacts, c'est assez compliqué. Pour savoir dans quel état on est, si on va rester en contact ou non, c'est assez compliqué aussi. La réduction d'index est coûteuse et on a des problèmes aux accumulations finies d'événements. C'est quoi l'accumulation finie? Je lâche une bille sur un plan avec un coefficient de restitution qui n'est pas 1. J'ai une infinité de rebonds en temps fini, la bille s'arrête sur le plan. Donc voilà. Là, j'ai une infinité de rebonds en temps fini. Donc là, si on détecte tous les rebonds, on n'avance plus en temps. Alors ça marche bien pour des petits systèmes avec des événements bien séparés. Et sinon, ça ne marche pas très très bien, on a quand même de gros problèmes. Alors on a l'autre type de schéma, qui est là par contre, j'intègre directement, on va dire, l'inclusion différentielle. Donc là, on a des preuves de convergence, on est robuste et stable. On arrive à intégrer des problèmes avec des accumulations d'événements, hein, comme des billes qui rebondissent avec une infinité d'événements. Par contre, on a des ordres de précision qui sont relativement faibles et on a du mal à les améliorer. Voilà. On a deux types de schémas qui sont bien complémentaires et qui sont un peu différents. Donc, on va dire que ça marche bien pour les applications où on a un nombre d'événements élevé, voire infini. Ça ne veut pas dire qu'on ait beaucoup de contacts. Hein. Par exemple, c'est vraiment le nombre d'événements qui est important, hein, sur la bille qui rebondit, ou sur des mécanismes, on va dire, avec des liaisons pivots avec du jeu, par exemple, hein, où on a des accumulations d'événements, ce type de schéma fonctionne bien. Donc, bon, il me reste peu de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de ce schéma de Moreau. Hein. En gros, ça ressemble à un ELR implicite, mais ce n'en est pas un. Je vais passer là-dessus. Juste pour vous dire que la résolution du problème discret, une fois qu'on a discrétisé, ce n'est plus une méthode de Newton, mais c'est des algorithmes de complémentarité qui viennent de l'optimisation. Donc, on passe des équations non linéaires à des problèmes d'optimisation où on ajoute à chaque pas de temps dans ce type de système, ce qui est assez naturel hein, puisqu'on avait de la complémentarité, des inclusions dans les cônes, donc tout ça vient de l'optimisation et toute la panoplie, on va dire, des méthodes d'optimisation sont utilisées. C'est, on va dire, un autre monde, mais c'est pas plus compliqué et les algorithmes existent et sont aujourd'hui assez robustes. Je vais finir par vous présenter on a développé une plateforme à l'INRIA pour traiter ce genre de problème qui s'appelle Psychonos, où en gros on a une partie numérique où on a des solveurs de complémentarité, des solveurs de problèmes de frottement, on a une partie de modélisation de systèmes mécaniques, aussi de systèmes d'ordre 1, donc comme des systèmes électriques, des systèmes de Filipov pour faire des systèmes à mode glissant, bon, des interfaces, et puis on a quelques exemples hein, qui démontrent en mécanique, en robotique, on a le robot bipède, un bras manipulateur, on a un yo-yo aussi hein, qui est manipulé par un bras. On a quelques systèmes qui démontrent que le type d'approche non régulier est très intéressant, non seulement pour pouvoir faire de la simulation correctement, mais aussi pour comprendre la physique des phénomènes. Alors on nous reproche souvent, oui, mais vous faites des contacts rigides, vous faites du frottement sec non régularisé, la physique voudrait qu'effectivement il y ait des régularisations. Alors ce qui se passe, et ça c'est l'expérience qui vient des milieux granulaires, c'est qu'en général, lorsqu'on met de la régularisation dans ce genre de système, en fait, ce qu'on mesure à la sortie, c'est l'influence du paramètre de régularisation, qui est généralement relativement peu physique, et pas la dynamique réelle du système. Donc l'avantage de ne pas mettre de régularisation et d'avoir un système plus idéal, c'est souvent qu'on arrive mieux à l'interpréter ensuite. Bon, c'est un logiciel open source qui est distribué sous licence GPL. Hein, donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Et puis je vous donne un exemple, un tout petit exemple, donc d'un robot extrêmement complexe, comme vous pouvez le voir. Un bras manipulateur simple, dont l'effecteur en fait, vient frapper un plan, ici, qui est là. Donc, la trajectoire qu'on souhaite lui faire, c'est un demi-cercle, puis une trajectoire, on va dire, en contact continu sur le plan. Et pour faire ça, plutôt que choisir une approche tangentielle, c'est-à-dire de freiner ici pour pouvoir approcher à une vitesse quasiment nulle, on fait le contraire, on fait une accumulation d'impact, on suppose que l'effecteur est suffisamment costaud et a été conçu pour ça, on fait une accumulation d'impact, bon, les vitesses sont faibles, hein, c'est pas des gros impacts, on fait une accumulation d'impact, comme la boule qui rebondit, et puis on vient se poser dessus. Donc là, pour simuler ce genre de commande, puis pour pouvoir la mettre au point et la concevoir, on a besoin de savoir traiter l'accumulation finie d'impact, sinon on n'y arrive pas. Donc je mets des références pour la commande. La commande est principalement due à Bernard Brugliato, qui a travaillé avec ses étudiants Jean-Mathieu et Constantin. Excusez-moi, c'est presque fini, je vais y arriver. Et là, ben, je vous donne juste, hein, en fonction du coefficient de restitution EN, du pas de temps, en fait, ce qu'on est capable d'évaluer comme nombre d'impact. Ce qui est toujours relativement... C'est faible, hein, parce que normalement on a un nombre infini d'impact. Mais on va dire qu'au bout d'une 15 ou d'une vingtaine, enfin au bout de 15 ou 20 impacts, en fait, hein, la simulation, l'amplitude des impacts est tellement faible que que cela suffit. Donc on organise aussi une école de printemps. Mais juste avant, je voudrais juste vous montrer quelque chose pour vous dire que bon, ces méthodes, même si elles paraissent parfois un tantinet compliquées, bon, on a des outils pour les simuler et on peut faire du calcul qui est pratiquement temps réel. Donc là, c'est un calcul, si ça tourne. Ça, c'est le calcul en train de se dérouler hein, en même temps, c'est pas une vidéo. C'est un calcul temps réel, il y a 160 billes, du contact frottement 3D. Ouais, ça tourne en temps réel sur une machine qui est modeste. Quoi, hein. C'est une machine qui a, enfin, qui a 3-4 ans. Donc c'est pas insurmontable. Hein. C'est pas parce que le cadre mathématique est compliqué, mais il donne des outils puissants pour faire du numérique qui marche bien. Quoi. Donc faut pas en avoir peur forcément. Alors, on a souvent ce problème par rapport à ce genre de technique. C'est que c'est des techniques qui sont très utilisées en mécanique des matériaux granulaires, par exemple, et qui fonctionnent bien. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention.